Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Une heure ou presque chaque samedi pour comprendre et questionner les mutations de notre époque. Cette semaine, on regarde vers les étoiles.
We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Mars, c'est l'une des phrases choc que l'on retiendra de l'investiture de Donald Trump. De retour au pouvoir, il veut conquérir Mars. 55 ans après le planté de drapeau américain sur la Lune, le 47e président des États-Unis veut le planter sur la planète rouge et écrire une nouvelle page de la conquête spatiale. Conseillé par Elon Musk, le patron de SpaceX, qui affiche ses ambitions martiennes depuis plus de 20 ans et considère que l'avenir de notre civilisation sera multiplanétaire ou ne sera pas, Trump ne risque-t-il pas d'entraîner l'Amérique et le monde dans une course aux étoiles déraisonnée? Quelle est la faisabilité d'un tel programme et surtout, quelle est sa finalité pour l'humanité? Objectif Mars pour le meilleur et surtout pour le pire, on en parlera avec nos invités dans quelques instants. La deuxième partie de l'émission sera quant à elle dédiée à cette question, entre la bannière qu'on plante sur Mars et les grosses fusées qu'on fait décoller, comme celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Ça fait une grosse décharge d'énergie masculine, non?
Je pense qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise est plutôt culturellement émasculée. Mais je pense qu'avoir une culture plus masculine, qui célèbre l'agressivité, mérite d'exister.
Les déclarations de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, entrent en résonance avec cette actualité spatiale. Serions-nous entrés dans ce que Tania de Montaigne appelle l'ère du concours de bites planétaires? L'écrivaine sera notre invitée pour en parler. Allô Houston, on a vraiment un problème. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Pour nous aider à comprendre les intérêts et conséquences de la conquête martienne, nous avons ce soir les lumières de Francis Rocard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes astrophysicien et responsable de l'exploration du système solaire au Centre National d'Études Spatiales, le CNES. Frédérique Aitouati, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et metteuse en scène, co-autrice de la trilogie terrestre avec le regretté Bruno Latour. Vous en aviez aussi fait un spectacle. Xavier Pascaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique spatiale américaine. Et vous avez récemment sorti chez Talendier « La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques ». Enfin, Chloé Carrière, bonsoir. Vous êtes en duplex de Lausanne, en Suisse. Vous êtes youtubeuse et ingénieure aérospatiale. Sur les réseaux sociaux, on vous connaît sous le nom de Galactique Chloé. Vous faites de la vulgarisation autour du cosmos. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur cette déclaration de Trump le lundi 20 janvier dernier, lors de son investiture. On a entendu le son il y a quelques instants. Je le traduis. Nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en lançant des astronautes américains pour planter la bannière étoilée sur la planète Mars. Comment chacun d'entre vous avez-vous reçu cette phrase? Je commence avec vous, Francis Rocard.
Je dirais que c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'il soit allié avec Elon Musk. Elon Musk nous parle de Mars depuis déjà 10 ou 15 ans. Il veut coloniser Mars. Et quand on dit
Occupy Mars, c'est un des t-shirts, par exemple, qu'il portait pendant la campagne.
Oui, et coloniser, ça veut dire aller simple. Ce qui est un concept que la NASA n'envisage absolument pas. Aller simple, c'est-à-dire on s'installe, et puis ensuite, il faut vivre en autarcie sur Mars, indépendamment de la Terre, ce qui me paraît complètement utopique, sur le plan technique. Alors que dans la vision de la NASA, c'est on fait une exploration momentanée, qui peut durer 3-4 semaines, qui peut durer 500 jours, ça c'est un choix compliqué. Et d'ailleurs, ce choix a été fait, maintenant ça sera plutôt 3-4 semaines, au moins au début. Bon, la suite, on ne sait pas.
Frédérique Aitouati, comment est-ce que vous avez reçu cette phrase? Peut-être aussi, on va expliquer ce mot de destinée manifeste, qui est une expression très importante aussi dans la déclaration de Trump.
Oui, c'était un moment historique assez extraordinaire, ce fameux lundi, où le discours de Trump montrait à quel point son orientation politique de renfermement des États-Unis sur eux-mêmes était doublée de rejoigner, pour le coup, l'orientation vers l'espace de Musk. Donc c'est le moment où les deux planètes, celle de la sécurité du côté de Trump, celle de la sortie vers l'espace du côté Musk, se rejoignent pour donner une orientation très claire qui est sortons de la Terre. Et c'est ça la destinée manifeste. C'est l'idée assez délirante que la destinée de l'humain est de sortir de la Terre. C'est donc une vision coloniale, extrême, comme si on pouvait et on devait abandonner la Terre pour coloniser le reste de l'espace.
Xavier Pascaut, la destinée manifeste, nous faites un point historique sur ce terme qui date du 19e siècle, je crois.
Oui. Moi, ce qui m'a frappé immédiatement dans cette phrase, c'est la posture. En fait, c'est l'instrumentalisation politique de l'espace, parce que destinée manifeste, tous les petits Américains apprennent ça. C'est ce fameux texte de 1845, je crois, de John O'Sullivan, qui explique que les États-Unis sont un pays élu, en fait, et qu'ils ont une destinée manifeste. Et ça, c'est quelque chose qui résonne, parce que c'est identitaire aux États-Unis. Et quand Trump réutilise ça, il le fait à dessein. Et il y a toujours eu ce lien aux États-Unis, qui explique d'ailleurs leur tropisme prospatial, si j'ose dire, entre cette mythologie fondatrice des États-Unis et l'espace. L'espace, ça coche toutes les cases de la mythologie fondatrice américaine.
La nouvelle frontière.
Et la frontière, voilà. Jackson Turner, 50 ans plus tard, écrit sur la frontière comme facteur identitaire, en reprenant d'ailleurs dans son texte le concept de destinée manifeste de Sullivan. Et en fait, quand il fait ça, il crée une jonction complète entre, finalement, l'idée pour les États-Unis d'être toujours sur la brèche. Et l'espace, alors ça va être au 19e siècle, l'expansion territoriale, on arrive au bout, maintenant il faut s'étendre ailleurs. John Kennedy, la New Frontier, Reagan, la Next Frontier, on est vraiment là-dedans. Et Trump le fait
donc
pas par hasard.
Donc dans une continuité et pas dans une rupture. Mais il y a l'idée du drapeau américain, ça c'est important, c'est pas le logo de SpaceX qui sera aux avant-postes. Et il y a aussi cette idée qu'on abandonne un peu la collégialité internationale qui présidait jusqu'ici.
Alors, oui, on peut commenter ça. Il y a eu l'histoire du drapeau d'Apollo. On le sait peu, mais le drapeau qui est planté sur la Lune, c'est le drapeau américain. En fait, il y a eu toute une discussion à la Maison-Blanche à l'époque, en se disant, initialement, les gens étaient plutôt enclins à planter le drapeau des Nations Unies. Et y compris Nixon, d'ailleurs, ce qui est un peu contre-intuitif. Et avec l'idée que bien, les États-Unis, finalement, se mettraient en avant, mais de manière modeste, en étant les porte-parole de l'humanité qui arrive. Et le Congrès américain va dire, non, il faut arrêter ça, c'est quand même les Américains qui ont payé, il faut planter le drapeau américain. Mais il y avait quand même cette idée de... On représente l'humanité, et c'était une manière pour les États-Unis de se mettre en avant, mais on considérait l'autre. Là-dedans, dans ce discours martien, on ne considère pas l'autre du tout. On met le drapeau américain direct.
Martien Martial, alors ?
Martien Martial.
Un petit peu. Une réaction, Chloé Carrère, vous avez 26 ans. Vous êtes donc ingénieur en aérospatial, spécialiste de ces sujets que vous vulgarisez sur YouTube. Comment vous l'avez reçu, ce discours de Trump sur l'objectif Mars ?
Eh bien, comme mes confrères et consoeurs, j'ai envie de dire sans surprise, hein, moi, ce qui a été étonnant, enfin étonnant ou pas, c'est plutôt la réaction, je dirais, de l'audience, qui est donc, moi, plutôt européenne et francophone, de voir vraiment cette polarisation, en fait, des avis concernant cette déclaration. Je dirais ceux qui sont un petit peu fans du spatial malgré tout, peu importe le prix, qui était très, très enthousiasmés par cette déclaration, et ceux qui sont justement un peu plus, on va dire, mitigés face à toutes les autres choses qui se passent aux États-Unis. En ce moment, moi, je me positionne un peu plus dans le second camp, en particulier quand il s'agit du vocabulaire employé, comme on l'a souligné avant.
Francis Rocard, on est loin du programme européen qui a été cette idée d'espace utile. Nous, c'est ce qu'on défendait à l'échelle européenne.
Oui, je dirais que, et même à l'échelle française, nous, au CNES, on a la coopération dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on tout ce que l'on fait, on le fait en coopération. On cherche pas à faire des choses seul parce que ça n'a pas de sens. Et on s'associe à des partenaires. Bon, le partenaire européen est évidemment le partenaire numéro un, mais le numéro deux, ce sont les Américains. Pourquoi ? Parce que ce sont les meilleurs dans le domaine et ça nous permet, par exemple, avec Persévérance, d'avoir un super instrument français qui s'appelle Supercam. Ça nous a permis de mettre un sismomètre qui était français sur une mission InSight. Et donc, être avec les meilleurs, c'est très stimulant, y compris pour les ingénieurs des labos et du CNES. Donc, on est très fan de ça. Et je pense pas que cette coopération va s'arrêter. Non. D'ailleurs, on est sur du temps long, vous savez, dans le spatial. Hein, on est souvent sur la dizaine d'années. Donc, pour l'instant, les affaires continuent. C'est pas Trump qui va changer ce contexte-là.
Mais vous dites quand même, dans une interview au Figaro, vous dites, soyons clairs, l'intérêt d'une expédition habitée sur Mars n'est pas scientifique.
Alors ça, c'est un autre sujet.
Finalité. C'est pas la préoccupation de Trump, ni du Congrès, ni de la NASA. Le moteur n'est pas scientifique. Le moteur, c'est pas le développement humain. Le moteur, c'est pas non plus la planète B en cas d'épuisement des ressources. Le moteur, c'est l'imaginaire politique, en fait.
Alors, le moteur, il est... Euh, il est un petit peu en comment dire, il est jamais vraiment explicite. C'est-à-dire, moi j'appelle ça le syndrome post-Apollo. C'est quoi le syndrome post-Apollo ? C'est que Apollo a, la NASA n'existait pas en 61 quand Kennedy fait son discours, et en 65-66, c'est-à-dire au moment du sommet des dépenses, tout d'un coup la NASA se retrouve avec 25 milliards de l'époque. Ce qui représente 80-85 aujourd'hui. Et donc le budget de la NASA a été considérablement augmenté dans un domaine particulier qui est l'exploration habitée. Et évidemment, par la suite, ces budgets ont beaucoup diminué, mais la composante vol habité, elle, a été maintenue. Et ça, depuis 40 ans, 50 ans. Et, et c'est 10 milliards par an. 10 milliards par an. Donc les industriels, ils comprennent bien qu'il faut que ça se maintienne coûte que coûte. C'est keeps the momentum, impérativement. Donc ça a été la navette spatiale, ça a duré 30 ans, l'ISS qui va durer presque un demi-siècle, et puis maintenant il faut absolument passer derrière, et Mars est idéal. Parce que Mars, ça nous projette 30 ou 40 ans dans le futur.
Ouais. Aller sur Mars, est-ce possible ? Est-ce même souhaitable ? On en parlera dans un instant, juste après l'étoile du R&B, c'est SZA sur France Inter. Talent de l'américaine SZA sur France Inter, elle réinvestit le Girl from Ipanema d'Antonio Carlos Jobim, l'avez-vous reconnu sur ce titre BMF, on l'a appris jeudi, elle sera l'invitée de Kendrick Lamar pour les festivités de la mi-temps du Super Bowl le 9 février à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, consécration pour la superstar du R&B alternatif qui a reçu 4 Grammy Awards l'année dernière.
France Inter, un monde nouveau, Mathilde Serrel.
toujours avec Xavier Pascaux, Chloé Carrière, Frédéric Atouati et Francis Rocard pour l'objectif Mars qui nous a été fixé par Donald Trump ce lundi lors de son discours d'investiture. D'abord, cette idée d'aller sur Mars, Frédéric Atouati, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ou moins la réunion de deux planètes que vous aviez anticipée dans votre spectacle avec le philosophe Bruno Latour. La réunion de Musk et Trump, c'est-à-dire c'est le rêve de Musk avant tout, cette planète Mars.
C'est le rêve de Musk et c'est un rêve très ancien. En fait, moi j'ai envie de faire un tout petit pas de côté, revenir carrément au XVIIe siècle. L'idée d'aller très loin, conquérir des planètes, c'était la suite des grandes découvertes, c'était la suite de l'exploration, de la conquête, de la colonisation du monde. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement ancré, je dirais, dans l'imaginaire anthropologique, dans l'imaginaire scientifique, dans l'imaginaire de la grande histoire des sciences. Donc c'est cette très très vieille chose. Moi je suis frappée par le côté très ancien en fait de ce futur que nous donne à voir Trump. Il parle de drapeau, il veut rejouer le coup du drapeau sur la Lune, mais sur Mars. J'aimerais insister sur le côté un peu poussiéreux, en fait, de cet imaginaire-là. Un imaginaire du futur qui est du passé. Première chose. Et puis, effectivement, l'autre chose qui me frappe, c'est à quel point ce que Bruno Latour avait appelé les différents attracteurs dans son livre Où atterrir, l'attracteur Musk, qui était celui de Tesla, de l'intelligence artificielle, des big data, de aller dans l'espace, it's silly but fun, d'envoyer une Tesla dans l'espace, qui était bien séparé de la planète Trump. Des années 2017, 18, 19, eh bien ces deux planètes se sont réunies. Et ça, voilà, j'aurais aimé voir Bruno Latour réagir à ça, parce que finalement, il les avait situées à peu près au même endroit, mais là, elles sont une seule et même orientation. On parlerait vraiment de direction, d'orientation, d'attracteur. Et très clairement, Mars est une flèche vers l'espace, dans une ancienne conception du futur, dans une ancienne conception de ce qu'est la modernité.
En tout cas, pour Musk, c'est une flèche qu'il tire depuis une vingtaine d'années. Je le disais en ouverture de cette émission, il conçoit la planète Mars comme une assurance vie pour la planète Terre. C'est la fameuse planète B. Dans les manifestations écologiques, on dit parfois « there is no planet B ». Lui, il veut y croire à cette planète B. Et puis, il y a aussi cette idée, ces chiffres un peu fous d'annoncer qu'il y aura 1 million de personnes sur Mars d'ici 2050. On en est où dans le réalisme des projections de Musk dans ses annonces?
Excusez-moi, peut-être... la notion de planète B me dérange beaucoup parce qu'elle est très similaire au climato-scepticisme. Elle signifie continue à polluer, nous les super riches, c'est pas grave, on se tire sur Mars. C'est ça que veut dire planète B. Et donc, c'est un point de vue qui est propre à Musk, mais qui est absolument pas partagé par énormément de gens qui font du spatial et qui explorent la planète Mars. Donc, la notion de planète B me paraît assez honteuse, en fait. Parce que ça sous-entend que, de toute façon, on va saloper notre planète au point où il faudra partir. Il faut absolument éviter ça.
Et il y a un renversement historique. On va en parler, Frédéric Atouati. Il y a eu en 1969 ce que Bruno Latour appelait aussi le lever de terre. C'est-à-dire que grâce, en fait, à l'exploration spatiale, on aperçoit pour la première fois la forme de la Terre. Et évidemment, conséquence, les grandes ONG environnementales vont apparaître à ce moment-là. Greenpeace, entre autres, le premier Earth Day a lieu en 1970. Et tout un tas de manifestations politiques de la prise en compte de la finitude de la planète. Donc au départ, il y a dans l'exploration spatiale un énorme élan écologique, non, Frédéric Atouati, Xavier
Alors,
Pascaux.
Alors, Earth Rise, le lever de terre dont vous parlez, c'est le titre très précis d'une photographie extraordinaire de la NASA qui est prise à partir du sol lunaire. Et on voit effectivement la planète Terre émergée.
Et jusqu'en 2015, c'est la seule photo de la Terre éclairée
c'est
qu'on a.
Apollo 8.
Apollo 8.
Et ce qui est très beau, c'est qu'on a aussi dans ces années-là la Blue Marble qui est mise en place. Donc effectivement, ce dont vous parlez là, ce sont les grandes icônes de la Terre, de la Blue Planet qui sont mises en place et qui ont servi d'ailleurs au discours écologique et à la défense de la Terre pendant un demi-siècle pratiquement. Il faut dire que c'était pas du tout efficace et qu'une des choses qu'on a essayé de travailler dans nos spectacles avec Bruno Latour, c'était à quel point la Blue Marble n'a jamais uni en fait. Hein. Cette vision-là de la Terre vue de l'espace n'a jamais uni. Ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point en fait ces représentations sont maintenant largement supplantées par cette espèce de science-fiction un peu moderniste, effectivement, qui est là pour dire on peut abandonner la Terre parce qu'en fait, le futur se situe ailleurs. On peut construire une nouvelle planète ailleurs. Et ça, je rejoins mon voisin, c'est absolument dramatique parce que l'orientation dont on parlait, elle est à la fois politique, anti-écologique, moderniste, techniciste, extractiviste, techno-solutionniste. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tout ça ensemble qui, aujourd'hui, fait une flèche qui s'oppose à celle où on devrait aller, qui est le terrestre, et prendre soin du seul monde où on peut habiter, qui est celui-ci.
C'est une planète parfaite et on n'en trouvera pas une autre pareille.
L'humanité va être jetée à la dérive. Elle va chercher désespérément un rocher auquel s'agripper le temps de reprendre souffle. C'est à nous de le trouver, ce rocher.
Pour combattre la menace, nous irons vers elle avec le sang, la bravoure, et s'il le faut, le sacrifice ultime pour garantir que ce seront les humains et la civilisation, nous les insectes, qui domineront notre galaxie aujourd'hui et à jamais.
Un vaisseau, vous aviez tout prévu.
On peut tenir à 2000 dedans. Il y a des caissons cryogéniques dernier modèle et il est réglé pour trouver une planète similaire à la Terre dans la zone d'habitabilité.
Au début du 21e siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce.
Encadré par Richard Strauss et David Bowie, vous aurez peut-être reconnu à la fois Interstellar, Starship Troopers, mais aussi le fameux Don't Look Up ou encore Idiocratie, méconnue de Mike Judge. C'était sorti en 2006. J'ai envie de vous demander, à vous Francis Rocard, est-ce qu'on se retrouve dans un scénario type à la Don't Look Up, c'est-à-dire une planète qui va en effet être dominée par des technoscientifiques qui promettent à l'humanité d'aller s'installer plus loin, évidemment. Tout le monde ne peut pas forcément suivre, et on le voit dans Don't Look Up, l'avion n'envoie en fait dans l'espace que quelques privilégiés, y compris la présidente américaine qui laisse son fils à terre, Meryl Streep. Est-ce qu'on se dirige vers ce scénario à la Don't Look Up ?
Non, moi j'y crois pas du tout, dans la mesure où je crois pas du tout à la colonisation de Mars, je pense que ce n'est pas possible. Et souvent, l'argument que je mets en avant, c'est que je sors mon téléphone portable, je dis, ben là, comment voulez-vous fabriquer ça sur Mars? C'est pas possible. Vous imaginez les usines, ce que c'est de fabriquer un téléphone portable. Donc, ceux qui seront sur Mars seront 100% dépendants de ce que la Terre apportera, un peu comme en Antarctique. Voilà, il y a des bateaux de ravitaillement, on apporte des choses. Mais si vous cassez votre téléphone portable, ben, il faut vite le changer, vous n'allez pas le réparer. C'est pareil pour les fusées. Donc, l'exploration de Mars temporaire, oui, parce que bon, les Américains veulent y aller, donc ils vont le faire, ils ont les moyens de le faire. La colonisation de Mars, pas du tout. C'est complètement délirant. C'est du slogan, c'est de la propagande.
Chloé Carrière, justement, vous qui suivez les dernières évolutions techniques, il y a eu tout récemment donc des propulseurs nucléaires capables de se rendre sur Mars en moins de 50 jours. Est-ce que ça paraît plus concret ? On a aussi eu dans l'actualité spatiale le décollage de la fusée de Jeff Bezos qui a enfin réussi. Et ça, c'était quand même un point de bascule aussi, le patron d'Amazon.
Donc le voyage vers Mars, pour moi, non, il ne me semble pas encore concret, comme l'a dit mes confrères et mes consoeurs juste avant. Les développements technologiques, on ne les a pas actuellement pour aller faire un voyage aller vers Mars, et encore moins un voyage aller-retour. Donc c'est vrai que pour moi, ce discours, je ne mettrai pas du tout ma main à couper que dans les 10 prochaines années, on verra quelqu'un sur la planète Mars. On a été étonné sur le développement de certaines technologies, comme par exemple les fusées réutilisables. C'est vrai qu'à l'époque, on ne pensait pas que ça pouvait se développer aussi vite, ou du moins que ça marcherait. Donc, on sera peut-être étonné à nouveau. Mais je pense que la question ici, c'est pas la question est-ce qu'on peut le faire, c'est plutôt est-ce qu'on doit le faire. C'est questionner finalement les usages du spatial.
Xavier Pascaut, il y a aussi une question qui se pose, c'est l'objectif Lune. Qu'est-ce qu'on en fait dans cette histoire, puisque ça avait été présenté par Donald Trump dans sa précédente mandature. Et là, on saute la case lunaire pour aller directement sur Mars. Alors, on suit d'ailleurs l'agenda de Elon Musk, qui n'avait pas trop misé. Enfin, dans les annonces, en tout cas, à ce stade, qui ne sont pas détaillées du tout, d'ailleurs.
Non, non, c'est le paradoxe de la situation, parce qu'au passage, si Trump adoptait ce voyage direct vers Mars, il reviendrait en fait à la position d'Obama, qu'il avait combattu quand il est arrivé son premier mandat, puisque Obama avait dit « la Lune, c'est pas la peine d'y aller, on a déjà fait. Si on doit faire quelque chose, il y a un rapport qui lui avait dit « bon, Mars, ça reste un truc intéressant, il faut se préparer à faire ça ». Et quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dit « mais ça, c'est ridicule, il faut aller sur la Lune, etc. » Donc là, il reprendrait, sous la pression de Musk, un peu une position qui était le contraire de la sienne. Après, la Lune, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la Lune reste quand même une destination qui organise en ce moment l'activité industrielle, qui a réorienté les budgets, etc. Ce que veut Musk, c'est changer l'architecture de ce voyage lunaire en se mettant en avant. Et on critique beaucoup, du côté de chez Musk, la NASA qui a fait ce gros lanceur qui coûte très cher, qui a pris beaucoup de retard. Ceci dit, in fine, c'est aussi, c'est un programme qui est basé sur de la coopération internationale quand même. Il y a 52 pays qui ont signé des accords un petit peu pour s'organiser dans ce cadre-là. C'est pas simple à remettre en cause.
Comment est-ce qu'on peut imaginer aussi une autre explosion politique? C'est le duo Musk-Trump. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça qui risque de dévisser en premier, Xavier Pascaut?
Oui, c'est souvent évoqué. Aujourd'hui, moi, l'un des garde-fous que je vois, si j'ose dire, vis-à-vis de Musk et de son entrisme un peu politique, c'est que si SpaceX devient une entreprise qui monopolise un peu les fonds publics, là, sans doute, au niveau des élus locaux, des parlementaires, des sénateurs, qui, eux, ont un électorat et ont des industries à faire fonctionner et à nourrir, là, se rebelleront peut-être. Toute la question vient de la manière dont Trump peut contrôler ou non le Parti républicain, jusqu'à quel point, politiquement, ça ne créerait pas un problème pour Trump et auquel cas on pourrait là avoir des dissensions apparaître. Indépendamment des problèmes d'égo entre les deux, évidemment.
Et il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est celle des satellites. D'un mot, on peut en parler. 87% des satellites lancés en 2023, ils sont américains. Et c'est 83% des satellites d'Elon Musk. Donc là aussi, est-ce que cette façon de manger, on va dire, le gâteau de l'espace, de manger l'espace d'Elon Musk, est-ce qu'il peut continuer à avoir les mains libres de ce côté-là, sur le plan politique? Est-ce qu'il y a aucun garde-fou à opposer?
Pour l'instant, il n'y en a pas. En termes de droit, en tout cas, il peut lancer autant qu'il veut. Alors, il a des autorisations pour certains plafonds de lancement, mais ces autorisations lui sont régulièrement données. Donc aujourd'hui, effectivement, Musk, c'est 70% des satellites actifs en orbite, pour faire simple. Ça pose question, évidemment. Ça pose même question sur certaines orbites. Il y a beaucoup de satellites de Musk. Donc comment on va faire coexister d'autres systèmes? Donc tout ça est un problème politique, effectivement.
Avec une question, c'est évidemment la pollution par rapport au ciel et cette surreprésentation des satellites dans l'espace qui peut obstruer aussi la recherche scientifique. Donc, Chloé Carrière, ça va compliquer le travail aussi des astronomes.
Alors oui, évidemment, ça, on entend beaucoup parler effectivement de l'impact de ces méga constellations. On parle quand même, par exemple, pour Starlink, jusqu'à 40 000 satellites en orbite. Mais en fait, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup moins, qui est un sujet qui commence à inquiéter. C'est aussi ce qu'on appelle le déorbitage. C'est-à-dire que lorsqu'un satellite Starlink, qui a une durée de vie de 5 ans, ce qui est très court dans le domaine, va réentrer dans l'atmosphère, eh bien, en fait, ça va polluer les couches de la haute atmosphère. Donc, on va retrouver, par exemple, beaucoup plus d'aluminium, du niobium, des particules qui ne devraient pas y avoir là-haut. Et maintenant, on commence à se pencher là-dessus parce que typiquement, en 2024, on estime que c'est 2 satellites par jour qui rentrent dans l'atmosphère, sans compter les méga-constellations. Alors que si Elon Musk continue sur ses plans avec Starlink, ce serait 25 satellites par jour, ce qui est absolument énorme et ce qui deviendrait une source de pollution vraiment non négligeable.
Merci encore à tous les quatre. Vous restez parce qu'on va réagir ensemble à la prochaine séquence. C'est avec Tania de Montaigne qui a dressé un portrait au vitriol de Musk, justement, Bezos, mais aussi Zuckerberg dans Libération cette semaine. Elle nous expliquera ce qu'elle entend par techno-paléolithique.
Je vois ma vie comme un jeu sur Nintendo. On s'amuse bien, mais je suis souvent qui bloque. Je veux qu'on m'éjecte sans cliquer sur save et qu'on remplace que j'ai pris la poussière. Je kiffe pas les filles qui kiffent pas les filles. Chérie, c'est pas parce qu'elle est belle que tu es moins jolie. On dit souvent que j'ai une tête de chat. C'est peut-être pour ça que je suis allergique à moi. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong ding dong. Oui, c'est qui, 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 qui. Je vois ma vie comme les pages d'une bande dessinée. J'aimerais effacer certaines cases. à me faire draguer par des alligators. Un peu bouffi, un peu mal dans leur corps. Parfois je me sens comme un garçon. Ça me fait du bien, j'ai l'impression. Et si je te parle mal, c'est que je me parle mal. Bah les pattes, j'en fais pas un drame. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, ding-dong. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, ding-dong. Oui, c'est qui. Ok, bah viens, surtout enlève tes chaussures, hein. Moi je j'aime pas trop la poussière. Ouais, y'a pas de problème, par contre y'a pas mal de scratch, ça va, t'aimes pas trop, enfin le bruit ça dérange pas. Écoute, non, vas-y, essaye. Ok, c'est parfait, putain, t'as des gros pieds. Ouais, je sais, donc c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, j'avoue, c'est la vie. Bon, bah tu montres. Ok. Super.
Ce serait un peu facile de vous dire qu'en quelques titres, elle est mise en orbite, Mickey, mais c'est vraiment le cas en quelques clips qu'elle réalise aussi elle-même. Elle est propulsée, révélation pop française avec des textes percutants, un univers singulier. La fusée Mickey a 26 ans et vous allez en entendre parler en 2025. Son premier recueil de titres, Graou, sortira le 7 mars.
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Et bonjour Tania de Montaigne.
Bonjour.
Alors on a un petit cadeau pour vous accueillir, c'est un extrait de cette fameuse interview de Mark Zuckerberg chez un podcasteur américain, Joe Rogan, qui est le premier podcasteur du monde.
Je pense que les choses sont allées un peu trop loin à dire que la masculinité c'est toxique et qu'il faut s'en débarrasser. Je crois vraiment que la culture d'entreprise s'est tournée vers une forme d'émasculation. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, qui font partie d'une culture beaucoup plus masculine.
Tania de Montaigne, vous êtes écrivaine, on peut citer votre dernier roman Sensibilité chez Grasset, mais là c'est une tribune qu'on vous doit dans Libération. Avec ce titre savoureux, l'ère du concours de beats planétaire, vous revenez sur la masculinité affichée des géants de la tech, dont celle de Mark Zuckerberg qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour qu'il tienne ses propos chez Joe Rogan?
Alors il y a deux choses. Déjà, je pense qu'en fait, on a prêté sous prétexte que c'est des gens qui travaillent avec l'intelligence artificielle, les voitures qui se conduisent toutes seules, les fusées qui vont sur Mars. On a cru que voilà, c'était des parangons de modernité, mais en fait, je crois qu'ils ne l'ont finalement jamais été. Et que la petite parenthèse Obama, c'est une parenthèse, mais que fondamentalement, il y a quelque chose de très... J'entendais tout à l'heure cette idée...
Frédéric Atouati, ouais.
Voilà,
de très
que,
rétro, en fait.
Oui, en fait, c'est vraiment une vision du futur et d'un horizon qui est vraiment réactionnaire. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui marchent vers l'avant en marchant vers l'arrière. C'est très...
Alors,
signifiant.
Le lien entre Zuckerberg, donc de Meta, Musk, de Tesla, SpaceX, Bezos, d'Amazon, c'est que ce sont tous des hommes qui sont tous dans la tech. Et il y a ce mot qui est apparu, c'est la broligarchie. Une oligarchie des bros, des frères, des gars. Vous l'adopteriez ce mot, Tania de Montaigne?
Non, parce que je trouve qu'il donne un côté sympa à quelque chose qui est beaucoup plus métallique que ça. La question, c'est pas... parce que je crois aussi que ce qui... Tout à l'heure aussi, j'entendais tous les mots que vous proposiez qui pouvaient définir ce à quoi on avait affaire. Mais je pense que la détestation du genre humain est quand même la donnée assez fondamentale de tout ça. Donc, bro suppose qu'on est en lien. Et que l'affect prime, je ne crois pas que ce soit de cet ordre-là. C'est vraiment quelque chose d'assez mécanique aussi. Et puis, vraiment entièrement tourné vers la question de l'argent. C'est ça qui guide et c'est ça qui est respecté d'ailleurs.
On parlait de ce côté broligarque parce qu'il y a une majorité masculine dans le milieu de la tech. Et la tech étant le milieu finalement, donc le grand milieu, on va dire, de l'argent et des grands projets à venir, que ce soit avec l'intelligence artificielle, la conquête spatiale, on en parlait à l'instant. Donc, il y a cette idée de masculinité qu'ils ont en commun. Mais au fond, est-ce que le projet technique, il n'est pas lui aussi un peu ancien? C'est Yanis Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie en Grèce, qui disait, en fait, on a affaire à une proposition qui ressemble à celle du Moyen-Âge, la vassalité que consentent les abonnés aux réseaux sociaux. C'est à peu près le même projet, mais version 21e siècle.
Oui, et puis aussi l'esclavage, qui est intéressant, parce que en fait, c'est quand même des gens qui sont devenus milliardaires avec quelque chose des autres. Donc, votre maison, si on est sur Airbnb, votre voiture, vos données. Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué de l'argent avec rien, avec ce que les autres leur donnaient. Et ça aussi, pour moi, c'est assez intéressant. Il n'y a pas eu de création de quelque chose, hein, alors que jusque-là, j'ai une invention et cette invention va faire que je vais générer l'argent. D'ailleurs, je vais du coup employer des gens pour faire qu'il y ait une industrialisation de ces innovations. Là, on voit bien qu'aussi, il y a l'idée que moins il y a de gens et mieux ce sera. Donc, même dans l'élaboration, la soustraction de l'humain est permanente. Constitutive même, je trouve.
La soustraction de l'humain, il l'a mise en avant d'une énergie masculine particulièrement. Pourquoi ? Comment est-ce que vous analysez ce lien énergie masculine, promotion des arts martiaux, ce système comme ça qui... c'est pas un système solaire, c'est système masculin qui clignote.
Ça aussi, parce que c'est une vision du masculin à base de... on fait du MMA dans la boue. C'est vraiment ça aussi. C'est vraiment vieux, mais alors à un point. Il y a la question de la brutalité, hein,
qui est présente dans les débats. En tout cas, ça revient.
Mais qui est permanente cette question. Il le dit d'ailleurs dans l'entretien. L'agressivité, là, c'est dommage, vraiment. Parce que vraiment, c'est génial. Mais en même temps, je sens aussi que c'est des gens qui... ils sont tous partis à la salle. Mais techniquement, je pense que c'est des gens qui sont vraiment des geekos. Je ne pense pas que leur vie d'enfant et d'adolescent se soit passée à base de « on fait du judo avec tous mes potes ». Je pense que c'est des gens qui étaient assez solitaires, qui n'ont pas des physiques non plus déchaînés sur cette question-là. Et que là, c'est comme s'il y avait une espèce de moment où on allait pouvoir... Ah, ça y est, j'ai fait de la salle comme un déchaîné. Et là, maintenant, je peux vous dire, les gars, officiellement, ça y est, je suis un vrai homme, quoi. Et donc, je crois que même pour eux, il y a vraiment sans arrêt essayer de réaffirmer quelque chose dont ils sont moyens convaincus. Mais en tout cas, ils ont l'argent pour se faire croire que c'est vrai, quoi.
Zuckerberg avait défié, d'ailleurs, il y a quelques temps, Elon Musk, il voulait l'affronter dans une cage, donc de MMA. Le combat n'a pas eu lieu, mais donc on est là dans ce que vous définissez comme le concours de vie planétaire.
En tout cas, ce qui m'apparaissait là, c'était vraiment cette idée de faire la preuve de sa propre existence en se donnant tous les codes qui diraient que vraiment là, c'est moi qui ai la plus grosse incontestablement. Donc faire retour sur son appendice et vérifier qu'il existe vraiment. Le seul problème, c'est qu'on en fait les frais, parce que à vrai dire, qu'une bande d'abrutis veuille absolument faire des bras de fer dans un bar, ça pourrait être un non-sujet. Il se trouve que là, c'est un mode de gouvernance. C'est-à-dire que c'est ça qui nous est proposé pour l'instant et qui est sidérant d'ailleurs. Donc, il va falloir à un moment sortir de cette sidération pour essayer d'envisager d'autres choses.
Vous parlez techno-paléolithique. Au paléolithique, les femmes étaient chasseuses aussi, alors que là...
Oui, après, c'est...
On les renvoie parfois dans l'imaginaire, la cuisine.
En tout cas, ce que je voulais essayer de trouver, c'est quelque chose qui viendrait entrechoquer ce mot techno-là, où on est là, il y a plein d'objets, c'est le futur, on comprend rien, ça a l'air vraiment tellement loin dans le futur qu'on sait même pas où c'est. Et puis, pourtant, vraiment, on est revenu à des choses très archaïques, mais il est
des instincts primitifs, grégaires.
Oui, en tout cas, je sais même pas si c'est de l'ordre de l'instinct. C'est ça que je mets en doute, c'est-à-dire que c'est pas de la pulsion, c'est vraiment un truc mélangé entre du métal et des gens qui se sont toujours tenus très très loin des autres. Et puis, ce moment-là, très bizarre. Et on a quelque chose à non seulement à penser, mais il va falloir vraiment sortir de cette sidération pour proposer autre chose, par exemple de l'humain en fait, parce que là il y en a pas. Et tant qu'il y en a pas, on va rester dans des propositions de cet ordre-là. Et on voit bien que tous les gouvernés aujourd'hui, c'est transgresser est sidéré. Et pour l'instant, on en est entre hommes. Parce que c'est vraiment super, c'est bien connu.
Entre.
Bah voilà, l'autorité de ce côté-là. Mais c'est intéressant aussi de trouver si effrayant la moitié de l'humanité qu'on soit obligé d'en faire abstraction en permanence, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des termes masculinistes, par exemple, ça ne me convient pas parce que ça donne l'illusion que ça
que c'est
répondrait...
un pendant au féminisme. Ouais.
Oui, sauf que féminisme s'est créé sur l'idée du respect des droits humains. Donc, par conséquent, le féminisme, il est contre toutes les discriminations. Le masculinisme, je crois que c'est pas le bon terme en fait.
Le virilisme, donc, on peut l'adopter. On l'a déjà adopté dans cette émission à mon nouveau d'ailleurs, et j'essaie aussi de l'utiliser le plus souvent possible. Non, c'est vrai parce que voilà, on dit mal nommer les choses. S'est ajouté au malheur du monde
parce
en citant toujours Albert Camus qui se fait réveiller chaque fois qu'il faut faire une citation, mais pour le coup, c'est
ouais.
sans
Et puis surtout, ça nous met pas au bon endroit de lutte. Parce que si on est à cet endroit-là, et ben on va se retrouver avec des gens qui disent « Non, mais les hommes, c'est super », des femmes qui disent « Non, mais c'est les femmes » et tout, alors qu'en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment chacun est respecté dans ses droits. Donc, masculiniste, pas pertinent, parce que là, on n'est pas du tout sur l'idée ni des droits, ni du respect, ni de l'égalité. On est sur complètement autre chose, quoi.
Question tour de table, du coup. Lorsque Jeff Bezos lance sa fusée en orbite la semaine dernière et tente de concurrencer Musk, ça valide l'hypothèse technopaléolithique grégaire du concours de bite de Tania de Montaigne. Xavier Pascaux.
Ah bah, Musk et Bezos, de toute façon, c'est un combat d'égo depuis le début. Et Musk fait tout ce qu'il peut pour lui dire t'es beaucoup plus. T'es terminable, en fait. Et moi, je réussis tout.
Il y a une forme de suppositoire dans la fusée, mais aussi une forme phallique.
Ah bah, y a, oui, non, mais. Le concours d'ego, on est d'accord. C'est tout à fait ça. Je pense que, juste pour commenter sur ce qui a été dit, moi je suis tout à fait d'accord. Le manque d'empathie, il est revendiqué en plus. Parce que quand vous voyez comment ces sociétés sont gérées, SpaceX par exemple, Musk, a un discours sur la manière de gérer SpaceX dur. De gérer la relation aux employés. Enfin, on le sait, hein, en termes de ressources humaines, SpaceX, c'est pas si simple.
Et donc, la soustraction de l'humain aussi.
Ouais, c'est ça.
On abandonne les vérificateurs de faits. Par exemple, chez Zuckerberg, en rejoignant X.
Et puis, le deuxième point, je pense que, et pour reparler de Zuckerberg, il y a un deuxième aspect aussi, c'est l'opportunisme.
Ah oui.
Parce qu'en réalité, il prend cette posture-là aussi parce qu'il fait le constat que Trump a été réélu et que Trump, il n'aimait pas les GAFAM et qu'il va falloir se faire aimer de Trump. Et donc, il réussit ses codes aussi. Donc, il y a un mélange des deux, je crois. Voilà.
D'accord. C'est un mec qui essaye d'aller à la soirée, quoi, où tout le monde
je
est.
Je pense un peu. Il y a un peu cet aspect-là.
Oui, oui. Tout à fait. Mais je pense que ça lui coûte pas tant que ça. C'est ça que...
C'est possible.
Le malentendu, à mon avis, était au moment de la période Obama.
Ouais.
De croire que vraiment il était à fond, je ne crois pas.
Il y avait Frédéric Atwati, c'est intéressant, c'était d'opportunisme. Ça veut dire qu'aussi, dans la conquête spatiale, l'idéologie a bougé. Il y a peut-être pas tant que ça d'idéologie, mais un opportunisme purement pécunier et peut-être un peu misanthrope à la source, comme le dit Tania de Montaigne.
Tout à fait. Et ce qui est désolant, c'est que le résultat, c'est une espèce de confiscation de l'espace. C'est-à-dire que moi, j'adore la science-fiction, j'ai étudié l'histoire de l'astronomie. Ces gens-là sont en train de nous voler l'espace. Ils concentrent dans cette idée d'imaginaire spatial toutes ces idéologies toxiques dont on vient de parler. Virilisme, concept du post-humain, héroïsme malvenu, surhomme, testostéroné, etc. Et ça devient ça, l'espace. C'est dommage, ça pourrait être autre chose.
Chloé Carrière, vous qui êtes donc ingénieure en aérospatiale et youtubeuse, quand vous avez 26 ans, quand vous avez eu envie, vous, de faire cette carrière, de faire ces études et aussi de vulgariser ces connaissances, l'imaginaire spatial, c'était autre chose pour vous, peut-être ?
Oui, tout à fait. Donc déjà, moi, ce qui m'a attirée, c'est plutôt l'étude de l'univers, donc la partie plutôt comprendre comment la nature fonctionne. Mais pour revenir sur ce débat, je pense que ça va un petit peu plus loin que le choix du vocabulaire ou de l'imaginaire qui est présent. Je pense que ça vient aussi du narratif que l'on met sur le spatial. Parce que finalement, là, toute notre discussion qui est autour de ces trois hommes et de la conquête, comme on a décidé de l'appeler, ou du moins de l'exploration spatiale habitée, c'est pas ça le spatial, en fait. On réduit le spatial à ça énormément dans nos narratifs, alors qu'aujourd'hui, si on prend des chiffres, par exemple, simplement du budget de l'Agence spatiale européenne, l'exploration spatiale habitée et robotique, c'est 16% du budget. C'est pas du tout la majorité. Donc, je pense qu'il faut aussi repenser notre narratif autour du spatial et qu'en repensant ce narratif, eh bien, on peut cultiver un imaginaire plus positif, attirer des profils peut-être aussi plus bien bienveillant et plus empathique. Et c'est comme ça qu'on construit un monde, pour moi, qui est meilleur.
Francis Rocard, responsable de l'exploration du système solaire au CNES, je le rappelle, hein, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Vous validez la feuille de route de Chloé?
Oui, tout à fait. Je dirais que c'est un petit peu ce que je disais au début avec le syndrome Apollo. Nous n'avons pas eu de syndrome Apollo en Europe. En Europe, à l'ESA, les vols habités, les programmes des vols habités, c'est 6% du budget des programmes des vols habités américains. Voilà, on représente 6%. Bon. Avec 6%, on fait ce que on fournit, on est un partenaire du projet Artemis, mais en aucun cas on est leader, quoi. Bon, mais il y a pas de volonté européenne d'être leader. Il y a pas de volonté européenne de
parce
dire
qu'habiter l'espace, c'est pas le projet européen.
Vous parliez de concours de bites, il n'y a pas de concours de bites en Europe pour dire on va lancer nos fusées pour envoyer nos astronautes. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet. Et puis finalement, non, nos astronautes, ils se sont lancés soit par les Russes, soit par les Américains, et ça va très bien.
Merci à tous. Alors, l'Europe, le continent des non-concours de bites, ça dépend, parce qu'il y a aussi la Russie quand même. Merci, mais pas dans l'Union Européenne. Merci Tania de Montaigne, votre livre « Sensibilité » chez Grasset. On peut le dire, il est toujours disponible, et il y a cette chronique à lire hein, sur le site de Libération. Merci à Xavier Pascaud, « La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques ». On n'a pas fini d'en parler, c'est chez Talendier, avec aussi un passage sur la Chine. Merci Chloé Carrière, on vous suit sur les réseaux galactiques Chloé. Et on suit aussi votre programme pour l'avenir de cette étude de l'espace en Europe. Et merci beaucoup à Francis Rocard, responsable de l'exploration du système solaire au CNES. Frédéric Atouati, on cite vos livres Trilogie terrestre co-signée avec Bruno Latour et Terra Norma aux éditions B42. On peut signaler que dans quelques semaines se jouera à Paris l'adaptation justement de Trilogie terrestre sur scène. Merci et grand merci à mon équipe. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est Frédéric Milano. La préparation et le choix des sons, c'est Marion Philippe. La programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Et la technique cette semaine, c'est Benjamin Wagon. Je voudrais dédier cette émission spatiale à un astre qui est parti trop tôt. Il s'appelle Emmanuel Delavenne, pseudonyme Georges Dubol. Il aurait eu 50 ans hier. Bon anniversaire céleste.